Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres.
Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, c'est la grosse forme. Après une longue journée de travail, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Pauline Croisy. Voilà, deux mots.
Voilà.
Bonjour Pauline.
Bonjour Anissa, bonjour à tous.
Alors, pour te présenter un petit peu, Pauline, donc toi, tu es UX designer.
C'est bien ça.
Tu travailles pour l'agence Explose, que je connais un tout petit peu, dont j'ai entendu parler très vaguement. Vraiment, tu m'en diras davantage parce que je suis curieuse d'en savoir plus sur l'agence. Et donc aujourd'hui, bah, tu nous fais le plaisir d'être dans l'émission, dans le podcast, à mes côtés.
Tout le plaisir est pour moi, sincèrement.
Alors, bah, merci à toi dans un premier temps. Tu connais un peu la tradition du podcast quand je reçois quelqu'un?
Oui.
On part sur la citation de l'invité. En fait, pour moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de qui tu es, ce que tu fais, j'aime bien découvrir les invités à travers une citation qu'ils ont choisie. Quelle est la tienne? Dis-nous tout.
Bah du coup, pour avoir écouté un petit peu les précédents épisodes, j'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient dans tous les domaines et pas forcément dans leur domaine d'activité.
Absolument.
Donc je me suis dit, pour faire quelque chose de léger, je vais faire un peu pareil et aller dans quelque chose de rien à voir.
Allez.
Et je vais peut-être te surprendre. Et donc c'est une citation dans une chanson du groupe de musique Placebo. Parce qu'en fait, quand j'étais adolescente, j'adorais plus que tout ce groupe.
J'écoutais
vraiment à fond. Et c'est dans la chanson qui s'appelle 20 Years, et la citation c'est « We need to concentrate on more than meet the eyes ».
Ok.
Et c'est vraiment, j'aime bien cette phrase, et j'aime bien cette chanson, je vous conseille de l'écouter, elle est super sympa. Plutôt pour le sens basique qu'elle peut avoir, c'est-à-dire que c'est plutôt une phrase qui t'invite à regarder avec un peu plus d'attention les choses. Et comme aujourd'hui, tout va très vite, tout passe très vite, et on n'a vraiment jamais le temps de se poser plus que ça. C'est un peu pour rappeler que c'est bien aussi de temps en temps de faire une petite pause, de se poser et juste d'observer, de regarder, de contempler.
Avec les yeux.
Voilà, avec les yeux.
Ça, c'est vrai, on en a déjà parlé toutes les deux à quelques reprises, la contemplation.
Exactement.
Qui est finalement... quelque chose qu'on fait assez peu dans la vie de tous les jours parce qu'on est happé par nos différentes obligations tout simplement, et on prend pas beaucoup de temps de se poser et de se dire ah ouais, ça c'était sympa, ça me
exactement.
Permet de... Donc ouais, non, je trouve ça assez cool. Et donc c'est une chanson que t'aimes dans sa globalité, ou alors c'est cette phrase-là en particulier qui t'a plu?
Ouais, je pense que c'est cette phrase-là. Mais vraiment, la chanson aussi, pour tout le reste, cette chanson parle plutôt du fait que qu'est-ce qu'on sera dans 20 ans. Et c'est assez... Moi, je l'aime. Bon, si. Même le clip est sympathique, c'est joli. C'est dans l'univers du cirque.
Ah,
c'est très beau, avec
okay,
du
d'accord.
feu, des acrobates,
bon,
tout ça.
Petite dédicace à ceux qui ont connu Placebo.
Voilà.
Hein.
Et qui étaient fans comme moi.
C'est vrai que c'est intéressant. Ils font encore de la musique, Placebo?
Ben, je crois plus grand chose hein, ces derniers temps, malheureusement. Non.
Il va falloir leur écrire, Pauline.
Voilà. Brian, si tu m'entends.
Génial.
Où es-tu? Que fais-tu?
Envoie-nous tes nouvelles, quoi, tout simplement.
Oui, c'est ça.
Bon, alors on va passer peut-être à la suite, mais c'est intéressant que Pauline ait choisi une citation pareille pour la simple et bonne raison que toi, en tant que UX designer, ton métier, c'est aussi beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation. Donc je trouve ça aussi cool et une bonne transition avec le reste du podcast. Alors, si on peut peut-être commencer par parler un peu de toi pour que les gens apprennent à te connaître. Toi, à la base, avant de devenir UX designer, qu'est-ce que tu faisais? Tu viens d'où en fait? Est-ce que tu as toujours fait ça?
Non, à la base, bah si, on va dire que si. Professionnellement parlant, si, dans le sens où j'ai travaillé chez Explose directement après mes études.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'au départ, chez Explose, je faisais plus ce qui était en lien avec ma formation pendant mes études, qui était plus à la base graphisme, web design. Et par rapport aux besoins qu'il y avait chez Explose, gestion de projet. Finalement, parce que j'ai un peu le sens de l'organisation, et voilà, je me suis retrouvée à faire aussi de la gestion de projet, ce qui était super sympa. Mais pas ce que je préférais le plus dans tout ça. Finalement, chez Explose, l'expérience utilisateur et l'aspect UX design s'est développé plus que tout, et c'est devenu vraiment le cœur de notre métier et de toutes les expertises qui sont chez Explose. C'est donc assez naturellement que j'en suis venue à faire ça, en fait. Parce que quand je faisais de la gestion de projet, je faisais aussi beaucoup de réponses à appels d'offres.
Ouais.
Et dans le cadre de ces réponses à appels d'offres, bah, beaucoup d'analyse de sites, de compréhension du site, du besoin, de la cible. Et donc, déjà, un peu naturellement, je le faisais,
ouais,
finalement.
Qui a déjà un petit peu touché, dire, de loin à l'époque où tu faisais aussi les appels d'offres.
Voilà, sans mettre l'étiquette peut-être du X-Designer tout de suite dessus,
ouais,
sur ça. C'était déjà un peu les prémices. Et finalement, voilà, quand... Anissa est arrivée, donc toi, quand tu es arrivée chez Explose et que tu as repris un peu toute la partie gestion de projet, ben plus naturellement, j'ai pu être sur la partie UX design.
Ok.
Et à mon plus grand plaisir, parce que c'est vraiment ce que je préfère.
Ça, c'est top. Donc, effectivement, je l'ai pas précisé en ouverture,
oui,
mais c'est un petit peu le lien qu'on a toutes les deux. Hein. C'est qu'on a travaillé ensemble pendant quelques temps, quelques années, et on était en best team ever parce que,
exact,
voilà, on représentait la petite part féminine de l'agence Explose. Bon, elle n'a pas énormément grossi entre mon arrivée et mon départ ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, après, au final, maintenant, on est revenu un peu à la normale. Vous êtes de,
oui,
nouveau deux avec Marielle. Et voilà, ça se passe bien, du coup. Donc, Pauline, comme tu l'as dit, hein, mais c'est aussi l'intérêt que je te laisse un peu présenter pour que les gens aient aussi ton son de cloche. Est-ce que tu te voyais à la base faire de l'UX? Est-ce que quand toi, tu as rejoint le monde des agences, l'UX, c'était quelque chose qui te parlait déjà à l'époque?
Oui, si, quand même beaucoup, parce que ma dernière année d'études était un master 2 multimédia interactif. En fait, tout mon parcours scolaire était plus orienté graphisme,
Ouais.
voire même graphisme print à la base, et c'est vraiment... Et stratégie, un peu de stratégie. Et c'est vraiment quand ma dernière année de master où je me suis dit, je voulais vraiment me spécialiser un peu plus dans le digital parce que... parce que c'était les métiers d'avenir, parce que je sentais bien que on allait en avoir besoin, que j'allais en avoir besoin. Et donc j'ai fait ce master 2 multimédia interactif qui est une vraie sensibilisation sur un peu tous les domaines du digital,
ouais,
que ça soit à la fois la gestion de projet, le développement, j'ai fait un petit peu de code, bon, très basique, mais j'ai touché un petit peu au code. Et à l'expérience utilisateur. Et on a eu des intervenants vraiment super
intéressants.
Ceux
qui t'ont donné,
voilà,
aussi envie de dire, ah ouais, j'ai envie de
donc,
creuser là-dedans.
Même si pour moi, j'étais dans l'aspect graphique,
ouais,
j'étais déjà dans l'aspect UI design, User Interface Design, c'est-à-dire déjà orienté utilisateur.
Ouais.
Donc,
ça a toujours été un peu quand même ton focus. Alors, on va dire très très basiquement, pour ceux qui prendraient le train en marche et qui seraient plus ou moins familiers avec ces termes,
oui,
UX, User Experience Design, on va dire de manière très simple et avec tes mots et ta vision, hein, bien sûr, on ne prétend pas avoir la science infuse de la définition, le monopole de la définition,
non,
mais pourtant, un peu comment tu définirais peut-être le plus basiquement l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est que un truc qui est propre au web? Est-ce que c'est comment est-ce que toi tu vois cette discipline?
Non, je pense que c'est vachement plus vaste que le web, mais après moi c'est l'application que j'en aime.
Ouais.
Mais donc pour l'expérience utilisateur, pour simplifier, c'est un peu toutes les interactions qu'un utilisateur peut avoir avec un produit. On va dire, donc ça peut être effectivement une plateforme en ligne digitale sur le web, ça peut être un produit physique, ça peut être une expérience, un service, voilà, c'est vraiment toutes les interactions qu'un utilisateur peut avoir avec un objet.
Ok, très bien.
Et à cela, je trouve que pour avoir lu quelques articles, enfin pour être toujours un peu essayer de se tenir informé de tout ça, ces derniers temps, je trouve qu'il y a même une espèce de petite tendance à remettre un peu en question le mot user et le mot utilisateur et à essayer de le rediriger vers le côté humain. Et donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de human experience.
Ok.
Et,
donc ça veut dire que demain, tu pourrais devenir... HX designer.
Ouais, c'est ça. Ça sonne juste vachement moins bien.
C'est moins joli, effectivement, HX.
Mais en tout cas, c'est un peu... Après, je pense que c'est plus une tendance dans les mots, mais que c'est quand même ce qui nous anime. Mais c'est de dire que voilà, c'est pas juste des utilisateurs face à une technologie, mais c'est aussi des humains derrière tout ça.
Ouais.
Et je crois que c'est ça vraiment que je trouve intéressant et qui finalement me touche de toute façon aussi, c'est plus une histoire de mots, mais c'est, ouais. C'est important, je trouve, de le rappeler que les utilisateurs derrière, ce sont des humains et qu'on parle à des gens plus qu'à à une personne dans une situation de comportement par rapport à la technologie.
Ouais, super intéressant et je pense que c'est aussi un discours que tu es amené à répéter régulièrement quand tu expliques à des clients grossièrement, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Bah, c'est qu'à la fin, il y a des humains derrière qui utilisent ton produit, ta plateforme, ton app. Et donc, moi, mon métier, c'est de comprendre et d'être la personne qui va réfléchir à comment ton utilisateur va interagir avec ton produit final. Alors, évidemment, toi, ta mission, elle va être assez vaste en partant de cette définition-là. Comment est-ce que tu... C'est quoi, en fait, une journée type d'un UX designer dans une agence comme Explose, par exemple ?
Une journée type. Je ne sais pas si je pourrais parler en journée type, mais peut-être plus en projet type.
Ouais, projet type,
si ça te va. En gros, quand on démarre un projet avec un nouveau client, on passe par plusieurs phases et étapes. Et pour nous, ce qui est vraiment super important de comprendre, c'est ce qu'est le client. Et donc ça, c'est la partie plus stratégique, de comprendre ce qu'est le client, ce qu'il fait. Mais pour comprendre ça, bien souvent, il faut vraiment que ça passe aussi par la compréhension de sa cible. Et c'est là où on retrouve cette notion d'utilisateur à nouveau, ou d'humain, ou de personne. C'est d'essayer de comprendre à qui on s'adresse.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment les bases et les fondements du démarrage du projet. Et une fois qu'on a compris un petit peu qui sont ces utilisateurs, on va pouvoir se nourrir un peu de tout ça, tout au long du projet et du développement de la plateforme.
Ok. Donc ça, par rapport à un projet type, ça va être une première phase vraiment de, on va dire, assez poussive où vous allez vous intéresser vraiment à qui est le client, ce qu'il fait, à qui il s'adresse. Et par la suite, de manière plus concrète, est-ce que toi, tu as mis en place certains process d'un point de vue UX ? Est-ce que tu as une méthodologie ou des choses que tu mets en place qui t'aident à pouvoir apporter une valeur ajoutée sur un projet ?
Oui, alors notamment pour comprendre la cible, justement, il y a plusieurs exercices possibles. Et selon ce que le client est prêt à investir et à mettre comme temps pour essayer de comprendre cette cible, ce qu'on fait de manière quasi obligatoire avec tous les clients, c'est au moins l'exercice des personas. Les personas, en gros, c'est une représentation fictive de la cible. Et donc, on essaye vraiment de donner un background à des personnes, à leur donner un nom, un prénom, un âge, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur comportement sur des médias digitaux et quelles solutions, quels sont un peu les problèmes qu'ils rencontrent, les pain points, et en face de ça, quelles sont un peu les solutions qu'on va pouvoir apporter dans la solution qu'on va développer avec le client.
Est-ce que tu as le sentiment que les clients, souvent, ils ont une bonne idée de qui est leur audience, qui sont leurs propres clients ou...
Il y a souvent une base, quand même, qui est intéressante.
Ouais.
Mais justement, c'est ça l'intérêt des workshops, c'est de les pousser un petit peu plus dans leur retranchement et d'aller plus loin, de poser plus de questions sur « Ah oui, vous le voyez comme ça, mais en fait, est-ce que s'il était comme ci ou comme ça ?» Enfin, ouais. Voilà, c'est vraiment un échange qui permet de construire, un échange de brainstorming, de construire ensemble ces personnages-là en posant plus de questions et en allant plus loin lors d'un workshop.
Effectivement. En fait, souvent, et c'est ce que je disais dans mon précédent épisode avec Edgar, c'est que souvent, ils viennent pour une demande précise, très concrète, je veux ça, faites-moi ça, vous faites des sites ou vous faites je ne sais quoi, bah, j'ai besoin de ça. Mais en fait, ils n'ont pas forcément toujours conscience du process qui est nécessaire en amont avant d'arriver au résultat final. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu, quand on est un UX designer aussi, que d'expliquer la plus-value de faire ce boulot de fond quand même.
Et pour nous, ça c'est le minimum qu'on veut faire, qu'on impose de faire. Mm-hmm. Après, avec certains clients, on arrive à aller plus loin. Et là, c'est vraiment super chouette quand on peut aller jusque-là. C'est d'essayer d'aller interviewer des vrais utilisateurs.
Ça, c'est cool.
Et ça, c'est vraiment super chouette parce que tu vas vraiment au contact des vrais humains. On revient
tu
à l'humain.
Tu es sur le terrain.
Voilà, et tu es sur le terrain. Et c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent t'apporter avec leur spontanéité. Et c'est incroyable comment on peut tomber sur des gens qui ont vraiment envie de donner leur avis et qui donnent de leur temps gratuitement parce que juste ils ont envie d'améliorer un service ou de participer à tout ça. Et franchement, l'humain, ça te réconforte avec l'humain. Des fois, on dit « Oh, ce monde, il est horrible », mais en fait, non.
Ça te redonne foi en l'humanité.
Voilà, exactement, vraiment.
Mais c'est vrai que, en fait, pour toutes les entreprises, c'est peut-être un point qui est assez sous-estimé. En fait, on ne se rend pas compte à quel point les gens aiment bien donner leur avis de manière générale.
Oui.
Et donc, bien sûr, il y a des gens qui adorent donner leur avis pour critiquer, qui ne vont pas être très constructifs. Mais dans l'eau, il y a aussi des gens qui sont souvent des silent readers, tu vois.
Exactement.
Ils sont là, ils consultent le truc, machin. Et ils seraient pleins de bonne volonté, mais c'est juste que naturellement, ils ne vont pas forcément le faire.
Mm-hmm.
Donner un feedback sans qu'on leur demande, ils ne vont pas le faire. Mais par contre, s'ils ont bien accroché avec ton entreprise, ta marque ou quelqu'un de chez toi et que grosso modo t'as déjà un lien, bah c'est des personnes qui peuvent t'apporter un feedback, mais vraiment, on va dire, ça n'a pas de prix en réalité, ce qu'ils peuvent te mettre sur la table. Parce que j'imagine bien que quand on est UX designer, on a ses propres croyances, on a ses propres perceptions de ce qui peut être un blocage pour un utilisateur, de ce qui peut être une motivation pour lui. Mais c'est vrai qu'une fois que tu confrontes ta vision en tant qu'UX avec celle de ton audience, c'est toujours intéressant parce que tu peux vraiment repréciser les choses.
Complètement. Ouais, c'est un peu quand tu travailles des interfaces et que tu réfléchis à comment amener les choses, à développer un workflow d'écran et d'avoir un parcours comme ça pour que l'utilisateur passe d'un écran à l'autre sans aucune embûche, on va dire.
Ouais.
Ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on a des bases par rapport à notre expérience, forcément, en tant qu'UX designer,
à force de faire. Ouais.
Et il y a quand même des tendances sur des choses qui se font, qui ne se font pas. Et il y a beaucoup, ce qui est super cool, c'est encore une fois sur le net, tu as une ressource inépuisable de gens qui font des études et qui postent un peu des case studies de ce qu'ils font et qui donnent un peu leur retour d'expérience. Donc on peut vraiment se nourrir sur des choses un peu types, par exemple un formulaire. Bah, on sait qu'il y a certains types de chances, il mieux de les faire comme ci ou comme ça, qu'il y a des choses qui
des
se faisaient.
Des bonnes pratiques
qui
peuvent vraiment déjà te faire gagner du temps.
Exactement. Et ça, c'est une part de choses qui fait partie de notre expérience, mais qui est toujours super chouette de remettre en regard avec l'avis d'un utilisateur et de la vraie cible par rapport à chaque client et chaque cas et chaque situation. Mais je pense que de plus en plus, on pourrait faire ça à chaque fois.
Ouais.
À petite échelle, en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit une grosse étude avec en recrutant plein de personnes et en essayant d'aller très loin.
Mm-hmm.
En fait, je regardais, mais c'est peut-être plus une référence que je voulais donner à la fin, mais je peux peut-être déjà en parler. Sarah Judy, elle est UX designer et elle explique dans une de ses vidéos sur YouTube que tu peux déjà envisager de faire une minimum viable research. C'est de faire...
On est un peu comme sur le concept MVP, mais cette fois-ci avec la recherche.
Exactement.
Okay.
Et de se dire que même si tu arrives à recruter que 2, 3 personnes, qui représente vraiment ta cible et les personnes que tu veux toucher, c'est déjà super bien d'avoir ce premier feedback. Même si ça fera peut-être pas une règle que tu pourras dire que c'est global à tout le monde, c'est quand même déjà des bons insights, des premières intentions qui peuvent vraiment t'aider à valider ou affirmer certaines choses et certaines conceptions.
Quelles sont peut-être un petit peu les qualités à avoir dans ce métier ?
Il y a plusieurs choses. Peut-être pour revenir à ma citation du début, c'est justement ce sens de l'observation. Mais plus dans l'observation des comportements, je pense que même dans ta vie de tous les jours, tu peux constamment regarder comment les gens utilisent des outils, des apps, les apps les plus connues, les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des comportements, les grosses applications comme ça, elles influencent beaucoup les comportements que tu peux réutiliser après. C'est des composants que tu peux réutiliser après dans d'autres expériences. Donc, même d'observer comment tes parents ou ton oncle ou ta sœur ou ton petit frère, enfin voilà, comment des gens avec des profils complètement différents utilisent les choses et ce genre d'applications. Déjà ça, je trouve que d'observer les comportements et la société... Ça, c'est un premier point, d'être curieux.
Un bon sens de l'observation et de la curiosité.
Voilà, de la curiosité là-dessus.
Ouais.
Je trouve que c'est super important. Et aussi, je trouve d'avoir aussi beaucoup de compassion et d'empathie.
Ça, Pauline, elle est bien placée pour vous le dire. Hein. Souvent, on va dire...
Se mettre à la place des personnes, et un peu trop peut-être, pour ma part. Mais...
Ben, en ce qui te concerne, c'est vrai que ce qui peut être une de tes qualités est peut-être parfois tirée vers l'extrême, parce que voilà, quand tu as trop d'empathie, des fois ça peut aussi être... contre-productif parce que tu prends pas forcément des décisions, on va dire ultra rationnelles, hein, vu qu'il y a beaucoup d'émotions qui est captée. Mais c'est vrai que dans ton cas, c'est une vraie qualité parce que tu es naturellement comme ça. Tu es quelqu'un qui est très empathique et qui se met beaucoup à la place des autres, et donc ça t'aide beaucoup dans ton métier aussi.
Complètement, parce que c'est ça, faut essayer de penser comme ta cible pense, et c'est vraiment. Une histoire d'humilité aussi, d'essayer de se dire, voilà, je ne sais pas tout. Bien sûr qu'on a de l'expérience et qu'on sait comment fonctionnent pas mal de choses et ce qui marche moins. Mais les choses évoluent tellement vite qu'il faut rester toujours conscient que tous ces comportements-là, ça change, et essayer de se mettre toujours à la place des gens.
Je voulais aussi te poser une question par rapport à l'expérience utilisateur en général, parce que j'ai quelques exemples en tête, enfin en tout cas un, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment développer un bon produit si on n'a pas une bonne expérience utilisateur ?
J'envisage vraiment pas, je vois pas comment ça pourrait fonctionner l'un sans l'autre.
Moi en fait je me demande comment est-ce qu'on détermine où commence et où s'arrête l'expérience utilisateur ? Et c'est ça qui m'intéresse un petit peu, peut-être dans la mutation un peu de nos métiers qui sont de plus en plus transversaux. Pour toi, là, ça fait combien de temps ? Ça va faire 7 ans que tu bosses chez Explose ?
Exactement.
Ouais. Donc, en fait, tu n'as cessé d'évoluer là sur ces 7 dernières années où en fait, finalement, tu n'as jamais exactement fait la même chose d'une année à l'autre, puisqu'il y a des choses qui sont arrivées, qui ont évolué.
Oui. Ben, comme je disais, en début de chez Explose, déjà, j'étais peut-être un peu plus dans la partie graphique, gestion de projet.
Ouais.
Et même s'il y avait déjà une sensibilité envers l'expérience utilisateur. Et de plus en plus, en fait, on a la chance de développer des partenariats avec des clients qui nous laissent de plus en plus carte blanche là-dessus aussi.
Qui voient la valeur aussi de ce que vous pouvez apporter avec une vraie réflexion UX.
Et c'est ça, je trouve que c'est ça la chance et l'aspect cool de bosser en agence, c'est de pouvoir bosser avec des clients très très différents, dans des domaines très très différents, et à chaque nouveau client, tu dois te plonger dans un univers différent, un domaine différent, des contraintes, des questionnements, et c'est super cool parce que t'es dans la même agence, mais en fait tu bosses jamais pour le même type de client, donc jamais le même domaine, et tu fais toujours autre chose en fait. C'est hyper enrichissant.
Ça entretient un petit peu le goût de la nouveauté en réalité. T'as un challenge à chaque nouveau projet quasiment.
Exactement.
Ok, d'accord, super. Eh ben écoute, on va arriver tout doucement vers la fin de l'entretien. Et je voulais peut-être voir avec toi si tu avais des choses à partager avec les auditeurs du podcast, que ce soit, comme je disais, un podcast, une vidéo, un bouquin, quelque chose, quelqu'un qui t'inspire, qui pourrait intéresser les auditeurs.
Ben oui, j'en ai parlé un petit peu pendant l'interview, donc je recommande vraiment de suivre Sarah Doudy, donc qui est une UX designer à...
Doudy, ça s'écrit comment ?
D-O-O-D-Y.
Ok, vraiment Doudy.
Doudy, ouais. Elle le Sarah dit tellement Doudy. Mieux parce qu'elle est new-yorkaise et avec son accent américain magnifique. Et donc, elle est fondatrice du site internet qui s'appelle The UX Notebook. Et c'est aussi une newsletter. Si tu t'inscris toutes les semaines, tu peux recevoir ta petite dose d'inspiration.
Ça, c'est chouette. UX.
Ouais, vraiment chouette. Et elle a plein de vidéos YouTube qui est super cool aussi. Elle a fait un peu trois aspects. Elle a un aspect consulting où elle aide les clients à amener la recherche utilisateur dans les projets. Elle recommande plein de choses justement sur la recherche utilisateur. Elle fait plein de vidéos et des formations.
Ok.
Donc on peut suivre des formations en ligne et tout. Et elle aide aussi beaucoup dans le recrutement et dans le fait d'aider à se vendre et à développer son portfolio en tant qu'UX designer.
Ok, super. Donc, ça, c'est donc elle aide aussi les autres UX.
Voilà, exactement.
Et ça c'est chouette. Comment tu l'avais découvert ?
Et bien justement, quand on travaillait à développer des interviews utilisateurs, elle m'a inspirée dans des méthodes de travail. Vraiment, je regardais sur le recrutement de personnes, sur comment interviewer les personnes, des process comme ça.
C'est chouette. Ben, je vais balancer un petit peu les liens voilà, pour que vous puissiez aller checker ça. Mais c'est vrai que c'est super intéressant aussi d'avoir un peu dans son domaine parfois un peu des mentors, des gens qui font des choses peut-être qu'on ne fait pas encore ou qui font peut-être les choses mieux ou qu'ont juste une perspective différente.
Exactement.
Parce que ça aide aussi un peu à se challenger soi-même dans ses propres méthodes. Ok,
Et
super.
si je peux recommander peut-être une deuxième personne,
Ouais.
il est, je pense, très connu en fait, assez connu dans le domaine, je pense. Il s'appelle Geoffrey Dorn, c'est un designer tout court, plus vaste que juste
Un
UX designer.
designer tout court. Ok,
Et
Dorn, comment ça s'écrit?
Dorne,
Ok.
Geoffrey Dorn, il est français.
Ah, ok.
Et vraiment, il a fait dans son parcours, il a fait les arts déco à Paris et après, il a été chercheur à l'ENSAD Lab à Paris. Donc, il a vraiment expérimenté et il se décrit vraiment comme un designer éthique, sociale et radicale. Et donc, lui aussi parle beaucoup du fait qu'il n'aime pas trop le mot utilisateur et que pour lui, ses clients, entre guillemets, c'est vraiment des personnes. C'est des citoyens, c'est des migrants, c'est des personnes âgées, des jeunes. Enfin voilà, il aime beaucoup observer les comportements et les situations sociales. Et il fait plein plein de choses, il a plein de sites. Et ben, c'est lui qui est derrière par exemple le site graphisme.fr.
Ok.
Donc il a aussi une patte graphique super chouette. Enfin voilà, il fait plein plein de choses. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'il fait.
Ah, c'est
Et il a fait un
super.
TED
Ah, ouais, c'est
aussi.
ce que
Il y a
j'ai
un
vu,
TED, ouais,
ouais. Un
voilà.
TED
Le
avec
TED, il est
lui.
vraiment très très bien. Je pense que pour une entrée en matière sur Geoffrey Dorn, le TED est très bien.
Ok, super. Eh ben, on va mettre le lien alors bah, pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. C'est toujours intéressant. Je connaissais ni l'un ni l'autre.
Ben lui,
Donc.
j'ai eu la super chance de l'avoir en intervenant dans mon Master 2, justement.
Ah, oui,
Donc
ouais,
c'est là que.
forcément. Ah, c'est chouette. Et il est plutôt jeune aussi.
Oui.
Oh, vous avez quasiment le même âge en fait.
Oh, ouais, je sais pas. Je ne
C'est
sais
un
pas
peu voir.
exactement quel âge il a.
On va pas dire ton âge, Pauline.
Non.
On est
Merci.
on est des ladies. On va pas
Voilà.
faire ça entre nous. Mais voilà, il est très jeune. Ceux qui voudront aller checker sauront à peu près
Oui.
dans quel ordre d'idées on se situe. Mais on est dans la fourchette jeune. T'as bien vu, je l'ai dit,
Exact.
hein.
Oui.
Ok, super. Alors dis-nous un petit peu pour ceux qui souhaiteraient peut-être prendre contact avec toi, voilà, te poser des questions ou je sais pas quoi, est-ce que tu ils pourraient te contacter par une manière particulière?
Oui, je pense que LinkedIn, je pense que ce serait
Ouais.
la manière la plus propre. Parce que les autres réseaux sociaux, je les utilise vraiment plus de manière personnelle. Donc c'est pas très très. C'est pas public et pas très.
Ouais, on peut pas aller voir, enfin je veux dire, t'as pas de portfolio en ligne ou quoi que ce
Non.
soit là dans les médias. Après, on peut voir ce que tu fais à travers tes
Et
projets chez Explose.
totalement, comme ça fait 7 ans que je suis chez Explose, j'ai dépublié totalement mon portfolio d'étudiante.
Dans tes jeunes années
C'est clair.
fougueuses
C'est
de
ça. Vous ne
designer.
retrouverez pas les traces de ça. Quoique sur la toile, on retrouve des
C'est
choses des fois.
vrai, Internet
Je ne sais
a
pas.
une mémoire infinie.
C'est ça.
Donc, on n'est jamais à l'abri de tomber sur des petites pépites parfois si vraiment on cherche.
C'est vrai.
Bon, en tout cas, je vais évidemment te remercier énormément d'avoir accepté de participer au podcast. Moi, ça me fait super plaisir.
Mais
Comme je te le
tout
disais tout
pour
à
moi,
l'heure, tu fais un
pareil.
peu partie du club des 10. C'est le
Oh.
club des. Ça, en fait, ça va être le club de mes 10 premiers invités, des 10 premières personnes qui ont accepté de mouiller le maillot avec
C'est
moi dans le
vrai.
podcast et de me faire confiance. Donc. Pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissante.
Ben, tout le plaisir est partagé et vraiment moi aussi je suis reconnaissante que tu m'aies invitée, que tu donnes de la valeur autant à ce que je fais
Ah bah
et.
ça, oui, ça, je peux vous le dire. J'aime beaucoup ce que fait Pauline et en tant qu'humain et en tant que designer, je pense vraiment que tu fais partie de ces rares personnes qui ont vraiment ce sens assez pointu de comprendre qui sont les personnes, comment elles fonctionnent et comment leur offrir toujours quelque chose de qualitatif. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très inspirant et ouais, que moi j'admire chez toi.
Je suis très très flattée. Merci beaucoup.
Bon, bah écoute, j'espère te retrouver bah, très 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 bientôt encore pour
Oui.
de nouvelles aventures. On va continuer en tout cas de suivre ce que tu fais via Explose. Et puis, si de votre côté vous avez aimé l'épisode et que ce que on a proposé aujourd'hui ça vous a plu, n'hésitez pas, voilà, à partager le podcast, à partager l'épisode, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement, bah voilà, à m'écrire en message privé, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis, bah, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt, Pauline!
À bientôt.